les sentiers du monde. Une émission proposée par Nadia et Kadri Aga. Réalisé par Saïd Bouterfa.
Bonsoir Nadia.
Eh bien, parmi tous nos voyages, ceci est le deuxième en Inde. Mais il sera encore plus surprenant que l'autre du fait que nous parlerons d'une tribu qui continue de vivre à l'âge de la pierre, n'est-ce pas ?
Oui, en fait, c'est une tribu qui vit encore à l'âge de la pierre. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'elle vit, ou du moins vivait, parce que j'ai connu cette tribu il y a à peu près 15 ans, une quinzaine d'années. C'est d'autant plus étonnant qu'elle vit en Inde. Bon, les autorités indiennes ne veulent pas admettre qu'il puisse y avoir des gens, des primitifs. Alors, les associations internationales, les gens qui s'occupent d'anthropologie et d'ethnologie, qui essaient plus ou moins de fixer un peu notre passé, le passé de l'humanité, n'étaient pas du tout informés de l'existence de cette tribu. Et ça, c'est pratiquement... c'est un secret.
Où est-elle fixée? Au nord?
Eh bien, elle est fixée à l'est. Elle est fixée à l'ouest, vers le Bangladesh. Comme de toute façon, il y a, si vous voulez, puis à quelques exceptions près, il est rare de trouver encore, dans le monde actuel, un homme, enfin une tribu, une ethnie particulière, authentiquement, si vous voulez, réellement primitive, à l'état primordial, au point alpha de l'humanité, ceci paraît pratiquement invraisemblable. C'est pour ça que ça s'est tenu, d'une certaine manière, secret. Alors, lorsque donc on a appris l'existence de cette tribu, cette ethnie, les gens se sont rués pratiquement. Enfin, les spécialistes qui voulaient fixer le passé de notre humanité se sont rués sur eux.
Mais à partir de ce moment-là, la vie de la tribu a changé quand il y a eu pénétration?
Non, parce que, si vous voulez, ces gens ont volontairement et délibérément refusé toute forme de civilisation. Ils sont en pleine jungle indienne, parce qu'il existe une jungle indienne, il y a des animaux, l'état sauvage, une forêt, à pratiquement 2 heures de la civilisation, 2 heures de marche de la civilisation. Ils ne veulent pas aller vers elle. Ils vivent harmonieusement dans leur milieu, dans cette forêt. Et nous avons parlé donc de beaucoup de peuples primitifs, notamment les pygmées, dont ils sont proches. Donc ils sont proto-australoïdes. Et nous avons parlé aussi de la forêt de Nouvelle-Guinée, de Papouasie, de gens qui vivaient de la forêt amazonienne. Les gens qui vivent dans ces forêts sont à l'abri, sont protégés, vivent harmonieusement avec ce milieu. Et ne veulent pas, du moins ne souhaitent pas, en sortir. Les quelques rares tribus anthropologiquement définies comme primitives ayant en toutes plus ou moins subi un contact avec la civilisation. Cette tribu, il s'agit des Birors, ça dépend de la façon dont on prononce. Bon, je prononce Birhor, c'est Birhor. Donc, il y a 15 ans, à ce moment-là, donc, quand je les connaissais, je n'ai plus de nouvelles, se plaçait donc aux antipodes de la civilisation, aux grandes dames des autorités indiennes, qui ne voulurent pas en accepter le fait.
Alors, comment ça s'est passé?
Eh bien, comment ça s'est passé? Bon, c'est-à-dire que...
On les a laissés faire?
On ne peut pas les obliger. Et puis, si vous voulez, la fixation a pu se faire, parce que nul n'ignore les problèmes qui se posent à l'Inde. C'est un pays qui est très développé dans un certain sens et qui reste malgré tout sous-développé à cause des problèmes sociaux des différentes ethnies et surtout des différentes classes sociales. Vous savez qu'il y a une classification dans la société indienne. Vous avez depuis le brahman jusqu'à l'intouchable. Bon, les intouchables n'en s'en soucient pas et les birors sont inclassables étant donné qu'ils sont en marge de toute forme de société. Alors, ils sont hyper spécialisés, donc, si vous voulez, les birors se sont obligés à un isolement de plus en plus grand, étant donné qu'ils n'ont besoin de rien de ce que les autres utilisent ou pratiquent. Ils vivent uniquement des produits de la forêt, de la chasse et des produits de la
forêt.
Comme
les pygmées.
Comme les pygmées.
Ce que vous disiez tout à l'heure, oui.
Exactement. Alors, ils ont établi ainsi un fossé entre le monde, donc entre eux, et les autres populations qui les entourent et qui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, parlent le même langage, la même langue. Les autres ethnies, les autres peuples civilisés parlent la langue des birors, donc un hindou, une forme d'hindou. Donc, comme les pygmées, ce sont des proto-australoïdes, donc qui remontent une période de plus de 30 000 ans à peu près, donc l'origine classée à cette période-là. Ils sont de lointaine origine et ils sont aussi, comme les pygmées, chasseurs semi-nomades, donc fixés au niveau de certaines clairières et ils bougent de temps en temps en fonction
de leurs besoins
et en même temps des animaux qu'ils chassent.
Et ils sont petits?
Ils sont très petits de taille, effectivement. Ce n'est pas tout à fait la taille du pygmée, mais ils sont petits par rapport aux autres Indiens. Ils sont petits. Pas tout à fait. Il y a, si vous voulez, ils font 1m60, 1m65, pas plus.
Ils ont la même couleur que les pygmées?
Non, c'est des Aryens, des Indo-Aryens. Ils sont, enfin, on pourrait les assimiler. Bon, ils ont le teint brun, noir, même des Indiens, de beaucoup d'Indiens, mais ils ne sont pas, ils n'ont pas le poil marron du pygmée. Oui. Et le pygmée d'ailleurs n'est pas noir, n'est pas négroïde non plus. Souvenez-vous, on en avait parlé. Alors, les birors, eux, vivent à travers la forêt de Singboom. Ce qu'ils appellent la forêt, ça s'appelle Singboom.
Singboom.
Oui, ça a l'air... Singboom. C'est la forêt du soleil. Donc, la forêt Sing, c'est le soleil, c'est le dieu soleil.
Mais alors, elle est moins dense que celle où vivent les pygmées, non?
Non, c'est une forêt quand même assez... assez hostile, assez... Les Maharajas, bon, on a vu bon nombre de films et de contes qui évoquent justement cette forêt, notamment le livre de la jungle, le fameux livre de la jungle. Cette forêt est comme ça, telle qu'elle est décrite, donc avec des marigots, avec des marécages, des endroits où il est même dangereux de s'aventurer pour certains. Des tigres en liberté, le fameux tigre du Bengale. Oui, c'est d'ailleurs cette région, c'est dans la région du Bihar, et de l'Orissa. Donc entre le Bihar et l'Orissa, à l'ouest du Bangladesh, donc du Bengale, le Bangladesh, l'actuel Bangladesh. Alors, malgré de fréquentes rencontres avec d'autres tribus évoluées et insérées dans la civilisation, bien insérées, enfin dans la civilisation, enfin la société organisée, les birors ont obstinément conservé leur culture primitive. Donc, mais cela, je vous dis, ça ne plaît pas officiellement aux autorités, mais on ne peut rien faire. Et puis les programmes d'aide vont d'abord à d'autres pauvres qui ne peuvent pas subsister. Alors c'est ce qui fait d'une certaine manière l'extrême pauvreté. Donc les grands problèmes de l'Inde permettent, heureusement, d'une certaine manière, à ce genre de peuple, ce genre d'ethnie, de subsister et de nous conserver une idée de ce que peut ou fut, ce que a pu être ou fut notre passé, le passé de l'humanité en général.
Parce que l'Inde, c'est grand.
Oui, l'Inde est un grand pays et puis il a ses problèmes. Ouais. Il a ses problèmes. Tout le monde, nul ignore qu'il y a des problèmes de malnutrition et de sous-alimentation. Il y a des problèmes, vous savez, il y a des programmes spéciaux en Inde, des programmes spéciaux d'aide aux différentes populations. Bon, mais ceci n'empêche pas que l'Inde est un très grand pays, un pays parfaitement organisé et qui est dans le tiers-monde, je pense, un pays qui offre, qui a bon nombre de cadres, qui est d'autant plus évolué que d'autres pays occidentaux sur le plan scientifique, plan de la recherche. Mais il y a la population. Population, grand taux démographique,
ouais, ouais.
Une courbe démographique très importante. Bon, mais avec ces problèmes religieux, ces problèmes de société, de caste et tout, il y a de notre côté ce genre de problème de sous-alimentation et de sous-développement.
Et vous parlez religion, quelle est la religion de cette tribu?
Eh bien, nous allons venir beaucoup plus loin, je vais d'abord vous la situer, ouais. Et puis vous verrez, parce qu'en fait, comme tous les primitifs, ils ont leur mythe. Comme tous les hommes en général.
C'est-à-dire qu'ils ont conservé leur religion.
Ils
n'ont rien pris
adorent...
pays où ils habitent.
C'est
ils
ça.
Sont.
Non, rien du tout. Enfin, c'est leur pays, puisque originellement ils sont de là.
Oui.
Ils adorent le soleil, le dieu soleil Singh. Ils adorent le soleil. Ils sont petits et vivent presque nus. Bon, les hommes ont une espèce de petit pâne, donc, d'ailleurs comme les autres Indiens, d'autres Indiens pauvres, uniquement une espèce de cache-sexe. Et les femmes portent aussi une espèce de petit pagne autour de la taille, c'est tout. Mais ils vivent presque nus, donc ils n'ont pas les problèmes qu'ont d'autres sociétés, dites évoluées, la nudité étant normale. Ils vivent en petits groupes alimentaires, donc qui se suffisent à eux-mêmes, comme tous les groupes de chasseurs, les groupes primitifs, pour ne pas avoir de difficultés d'alimentation. On chasse par petits groupes et on se nourrit. Il est plus facile de se nourrir par petits groupes que par grands groupes, je vous l'avais déjà expliqué.
Et quel est l'animal que l'on chasse le plus volontiers?
Eh bien, justement. Alors, les animaux, tous les animaux y passent, mais généralement, c'est le
chasser le tigre, c'est
non,
votre...
Non, ça ne nourrit
c'est
pas.
Pas
ça
possible.
Nourrit pas. Ils se nourrissent de singes.
De singes?
Oui, nous allons arriver. Oui. Alors, mais comme pour tous les primitifs, la chasse, pour eux, est le noyau vital. Ils ne font que ça, chasser uniquement.
Rien pour dire. On chasse, les protéines.
Oui. C'est l'institution fondamentale de, si vous voulez, de cette tribu, de ce groupe ethnique. Et qui, si vous voulez, cette chasse est conduite par un homme, comme je vous l'ai expliqué pour les Pygmées, qui est le chef. Le chef, le Naya, il s'appelle le Naya, qui est aussi chef spirituel. Il est désigné comme chef, d'abord en tant que chef spirituel. Sinon, tout est démocratiquement organisé. Il ne fait, lui, que, en quelque sorte, indiquer, donner quelques indications qui ont été déjà prises à l'avance et qui sont coutumières, d'une certaine manière. Alors, la chasse est réservée aux hommes. De temps en temps, il y a un enfant, et c'est là une forme d'initiation. Bon, jamais, donc comme les groupes sont petits, généralement ces groupes, les groupes de Biror, sont de 10 à 15 familles, pas plus. Alors donc vous n'avez que 10 hommes, 10, 12 hommes, un enfant.
Et tous les garçons participent à la chasse à partir d'un certain âge?
À partir d'un certain âge, au moment où ils doivent passer à l'âge adulte.
Oui, oui. Et que fait la femme pendant ce temps-là?
Eh bien elle s'occupe du campement.
Oui, oui.
Du campement. Pieds nus. Ils sont donc tout nus, pieds nus, ils marchent silencieusement durant des heures. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils marchent, ils glissent, ils donnent l'impression de glisser pour ne pas donner, si vous voulez, l'alerte aux autres animaux. Ils ont une technique habituelle, comme ça, enfin, ça s'est développé au cours des âges. On a l'impression de...
Ils rampent alors?
Ils marchent, ils ne font pas un seul bruit, même sur les herbes sèches.
Ils marchent à pas feutrés.
À pas feutrés, c'est le cas. Alors, ils ont une hache sur l'épaule et leur filet enroulé sur les bâtons. Ils chassent au filet. Alors, je vous dis, ils ne font pas de bruit. Même entre eux, ils ne parlent pas. Vous êtes avec eux pendant des heures, ils ne s'adressent que quelques signes. Mais ils ne parlent pas. Non, mais même déjà, dans leur campement, c'est des habitudes. Vous savez, la plus longue conversation que peut avoir un biror avec vous, c'est 5 mots, pas plus.
Et même entre eux ?
Entre eux, oui. Uniquement le regard des signes, très peu de mots et très peu de verbiage. Donc c'est pas le cas pour moi aujourd'hui, ce soir.
Heureusement pour nous.
Oui. Enfin, pour repérer leur proie, ils reniflent longuement le sol. Ça vous rappelle les pygmées aussi. Donc c'est pareil.
Oui,
donc,
oui.
Ils reniflent le sol et parviennent à identifier toutes les espèces animales, uniquement en reniflant.
Mais il faut encore mieux les pygmées, parce que les pygmées avaient d'autres procédés que cela n'en pas.
Oui, le pygmée, parce que le pygmée était intéressé par un type de gibier, pratiquement, l'éléphant. Mais eux prennent toutes sortes de gibier, mais spécialisés, bien sûr, avec le singe. Et c'est assez paradoxal pour un pays comme l'Inde, parce que le singe est déifié dans l'hindouisme. C'est considéré comme Dieu. Alors, ils arrivent même à renifler des serpents. C'est assez extraordinaire, parce que le serpent, il est difficile de sentir un serpent. Il est, même le serpent, à plusieurs de mètres, ils vous diront, il y a un serpent à tel endroit. Et ils peuvent vous dire si c'est un mâle ou une femelle. Le serpent, il faudrait préciser, a un odorat particulier, une espèce, donc comme tous les animaux. Il possède 2 glandes anales, donc, dont l'odeur particulièrement âcre est forte au printemps. Ce qui fait
d'une certaine...
Oui, c'est ça, c'est une sorte d'appel sexuel. Bon, eh bien, eux arrivent à renifler toutes ces odeurs. Bon, au printemps, bien sûr, puisque leurs facultés olfactives sont très poussées. Le biror, donc, est adapté à la forêt et, si vous voulez, il arrive ainsi pratiquement à éviter tous les dangers. Il ne va pas vers le danger. Dès qu'il le renifle, dès qu'il le sent, il ne va pas.
Il doit éviter certains animaux, sinon
exactement.
On chasse...
Il chasse que ceux qui l'intéressent.
Ouais, ouais.
Et il évite les autres. Et il ne détruit pas gratuitement.
Et il chasse le serpent
ou... Non, il ne l'intéresse pas. Le serpent ne l'intéresse pas. Alors, c'est ce qui fait aussi qu'il n'a pas d'armes. Le biror n'a pas d'armes. Il ne possède comme instrument, tout et pour tout, que le filet qu'il trace ou la hache dont il va échanger la cognée avec d'autres peuples, de peuples plus avancés. Mais sinon, il n'a pas d'autres instruments.
Alors, pourquoi va-t-il échanger la cognée de la hache?
Non, c'est-à-dire pour obtenir la cognée. C'est-à-dire qu'il va faire du troc, étant donné qu'il ne fabrique pas, il n'est pas forgeron, il ne forge pas le métal. Alors, il a trouvé à un moment donné que c'était plus facile d'avoir une cognée en métal.
Ah oui,
la hache.
Ah oui.
Alors il a obtenu avec.
D'accord.
Ils n'ont qu'une hache et c'est le seul instrument de la civilisation qu'ils possèdent. Mais cette hache ne leur sert même pas à battre les arbres. Cette hache leur sert à tailler les arbres, l'écorce de certains arbres, dont ils vont utiliser. Donc si vous voulez, l'écorce va être tissée, cette écorce effilée, tissée, ça va faire des cordes qui serviront à tresser des filets.
Ça uniquement. Peut être difficile à faire.
C'était des habitudes.
Oui.
C'est des habitudes. Alors, leur marche est longue et sûre. Et elle se fait silencieuse, je vous l'ai dit.
Oui.
Rien ne signale leur venue, leur approche, leur présence dans la forêt. Alors, ils chassent le paon sauvage, le paon, dont ils prend les plumes, les belles plumes, qu'ils troquent, qu'ils utilisent comme monnaie. Il arrive aussi que, de temps en temps, il est trouvé que la monnaie, l'argent, les pièces d'argent... servent au troc, il les utilise pour ça, mais il n'a pas d'argent. C'est parce que, il a vu, en marge, donc à la lisière de la forêt, il a vu que d'autres avaient de l'argent et qu'ils changeaient. Alors il s'est aperçu qu'avec cet argent, on obtenait autre chose. Mais c'est tout, uniquement. Bon, quand il donnait ses plumes, on lui a donné de l'argent. Avec cet argent, il a obtenu autre chose. Mais sinon, il ne possède pas l'argent, il n'en connaît pas la valeur. Alors, il chasse le paon sauvage qu'il appelle Amingyur. Amingyur, bon. Et uniquement pour ses plumes, il s'en nourrit aussi. Et surtout, le singe, Sarah, qu'il appelle Sarah. Alors, le singe, je vous en ai parlé tantôt, c'est d'autant paradoxal que, si vous voulez, à peu de distance de là, il est adoré, il est déifié par d'autres hindous. C'est le Semnopithèque, le singe sacré, un singe donc avec une... parure blanche là-devant, brun, marron.
Le singe sacré de l'Inde, qui descendant de Hanuman dans l'hindouisme, donc le dieu Hanuman, divinité simiesque, est particulièrement vénéré par les hindous méridionaux, donc surtout les hindous méridionaux, mais pratiquement dans toute l'Inde, on respecte ces singes, non seulement on les respecte, on leur fait des offrandes, il n'est pas question de les maltraiter. Lui, le biror, s'en délecte, il le chasse, il le massacre, il le mange, enfin il le massacre, il le tue.
Il le tue
uniquement pour s'en nourrir, mais il ne tue pas systématiquement des singes. Alors, on le remarque d'ailleurs, ce singe, souvent d'ailleurs, quand vous avez une idée des temples indiens et tout, on les voit chuchés sur ces temples. Ils sont en troupe, ils sont là, ils sont adaptés donc à la piété, à la religiosité des autres qui viennent leur faire des offrandes. C'est très simple, alors ils vont dans les temples et ils vivent là, ces singes. Et surtout les temples de Calcutta, Benares, c'est plein de singes. Et si vous voulez, pour le biror, Hanuman est inconnu. Pas de religion, pas cette religion, la religion hindouiste. Et il se déguste rôti sur des pierres.
Toutes sortes de singes.
Toutes sortes de singes, oui. Mais c'est ce singe, dans cette région, c'est le Semnopithèque, donc c'est ce singe-là, parce qu'il n'a pas d'autres espèces. Alors, il le fait prendre dans des filets, qu'il a tressé lui-même, puis, il lui brise la nuque. Une fois qu'il est attrapé, il lui brise la nuque avec sa hache, avec la cognée de sa hache, et le ramène dans son campement. Alors, le biror utilise une technique à la fois simple et compliquée. Le filet qui est constitué, donc je vous dis, de fibres de ces écorces qu'il taille d'arbres, qui sont tressées avec une longue corde solide. Et puis, il tressait, et puis avec ça, la corde sert à faire les mailles du filet. D'ailleurs, il vend ses filets, beaucoup d'autres groupes viennent acheter, enfin, troquent avec eux leurs filets et leurs cordes.
Ils sont spécialisés
dans le tressage des cordes. Alors, les filets sont tendus entre les arbres en formant une espèce de barrière verticale en ras de terre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de couverture par le filet à une quarantaine de centimètres du sol tendu. Et avec des replis à angle droit. C'est pour amener la proie, si vous voulez, à suivre un parcours. Et ce parcours est terminé par un cul-de-sac. L'animal ne peut plus retourner, il s'affole et il se fait prendre un peu plus.
Le singe qui est si malin,
oui,
se fait
justement
prendre quand même.
Et ce qui est encore d'autant plus difficile, c'est que le singe est arboricole, il vit dans des arbres,
oui.
À plus de 30 mètres.
Alors, comment
ils arrivent à le faire descendre, ils le font descendre sans grimper aux arbres. Ah oui, ils le font descendre avec beaucoup de patience. Ils arrivent à la pâter, ils font aussi une espèce de petit bruit, donc un cri. Il descend, et quand il est au sol, il le poursuit, ils font du bruit. Alors, il ne peut plus remonter sur l'arbre, mais il court. Et il se fait prendre dans ses filets. Une fois qu'il a... Et ses filets, d'ailleurs, on ne les voit pas. Avec cette lumière tamisée, ils utilisent le contre-jour. Contre-jour lumineux, la lumière est tamisée, la lumière de la jungle, sous les arbres. Bon, il ne voit pas le filet. Même les êtres humains, il est difficile de voir, de remarquer ce filet, qui est très bien tendu. Alors, la technique consiste donc à faire descendre le singe et de le pousser vers les filets. Et c'est comme ça qu'il fait bon. Durant tout le temps que dure la chasse, donc que dure l'expédition, et c'est assez courant et commun à beaucoup de peuples de chasseurs, le biror ne boit pas une seule goutte d'eau. Même s'il dure des heures, il ne boit pas d'eau. Vous avez ça, les Indiens d'Amazonie, ils mâchent du coca. Vous avez un peu partout. Les gens, surtout dans les peuplades primitives, on ne boit pas n'importe quand et n'importe comment.
On ne craint pas la déshydratation.
Non, ils mâchent donc des herbes séchées, notamment des feuilles qu'ils concassent. Il y a même des pêcheurs au Yémen qui, eux, mâchaient une espèce de poivre rouge, de poivre rose, pour rester des heures sans boire.
Ils ne boivent pas pour avoir moins soif.
Non, on ne boit pas pour avoir moins soif. C'est une discipline acquise de longtemps. Le biror, lui, ne boit qu'à la tombée du jour ou au début du jour, après les repas. On ne boit pas à tort et à travers. C'est pour ça qu'ils ont un corps sec et nerveux. Musclé.
C'est peut-être pour ils sont astreints à cette discipline.
Mais c'est très important. Vous savez pourquoi? Rien n'est gratuit. parce que si il a de l'eau dans son corps, avec l'effort, il y a une évacuation.
De sel en même temps aussi.
Oui, et, non, et puis l'odeur, la transpiration.
D'accord, je pense à
l'odeur,
tout.
Ah oui. L'animal, enfin, comme c'est un prédateur, comme il va chasser, les animaux ne doivent pas déceler sa présence, ne serait-ce que par son odeur. Ils n'ont pas, ils ne doivent pas dégager d'odeur. Bien sûr, ils dégagent une odeur particulière, comme tous les hommes, comme toutes les espèces.
Oui, mais beaucoup moins du fait qu'ils ne boivent.
Qu'ils ne transpirent pas. Oui. Voilà. La transpiration étant âcre, particulièrement donc reconnaissable, et puis la peur et tout fait transpirer souvent, et puis le danger, et puis souvent la tension en elle-même. Eux évitent, a priori, ce genre de problème. C'est un peuple de chasseurs, pas besoin d'avoir de l'eau superflue dans son corps. Voilà. Et leur corps est maigre et musclé, sans cette eau superflue. Très musclé. Alors, les seuls dangers. Le birore n'est pas en danger dans la forêt, au contraire. Elle le sécurise, elle le prenait. Le seul danger qui menace les birores sont de nature immatérielle. Et viennent des bongas, les esprits. Donc, les esprits qui sont craints, donc, et surtout les malins. Les malins en particulier, les esprits malins. Alors qu'ils ravissent les hommes au détour d'un arbre. Et d'ailleurs, pour eux, les esprits peuvent revêtir n'importe quelle forme.
Oui, c'est
quelle
ça,
forme, quelle espèce.
Ils se matérialisent.
Oui, ils se matérialisent. C'est-à-dire qu'un bireur, vous ne voyez rien, on vous dira, il s'arrête, inquiet, parce qu'il décèle la présence d'un esprit dans cet arbre. Ou bien parce qu'un oiseau a chanté différemment, ou il s'est subitement volé, c'est qu'il a vu, cet oiseau a vu la présence de l'esprit, et il donne ainsi l'alerte au biror qui craint avant tout les esprits. C'est le seul danger.
Ah, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il se sauve ou
quoi? Ah oui, il évite l'endroit. Ouais. Il évite l'endroit. Alors, il évite l'endroit parce que si l'esprit se saisit de lui, il le transforme, il le confond dans la nature et il n'a plus d'existence. C'est une mort infernale. Alors, ils prennent diverses formes, je vous dis, se cachent partout. C'est pourquoi le biror, d'ailleurs, étant donné qu'ils ne craignent aucun danger, ils n'ont pas d'arme, aucune arme. Ils ne savent pas ce qu'est un arc, ce qu'est une flèche, ce qu'est une lance, une sagaie, ils n'en ont jamais eu. Je vous ai dit, le seul instrument, c'est sa hache.
Parce que de toute façon, il ne pourrait rien contre l'esprit, même s'il le voulait.
C'est ça, parce qu'il est de nature immatérielle. La seule façon d'affronter l'esprit, c'est la prière. Donc, l'esprit contre esprit. Et je profite pour vous dire que le biror est de ce fait un peuple pacifique. Arrivé donc à son retour de l'expédition, arrivé au campement, qui est situé automatiquement dans une clairière, même chez les pygmées, partout, pour qu'il y ait de l'espace, les singes qui ont été pris sont dépecés, les entrailles sont jetées aux chiens. Alors là, c'est assez extraordinaire, c'est que le chien ne sert à rien, il n'est ni domestiqué, ni rien, mais il vit en marge du biror. Et beaucoup, d'anthropologues anciens, considérer que le chien, c'est ainsi que s'est faite l'approche des deux espèces, de l'homme et du chien. Il y a une communauté donc d'intérêt. L'homme jetant des restes, le chien ayant trouvé la facilité de les manger puisque l'homme les jetait, tout après. C'est pour ça que le chien s'est acclimaté à la présence de l'homme. Mais c'est tout avec les birors, et c'est là d'ailleurs certaines indications peuvent être données pour voir comment plus tard il aurait pu être domestiqué. Ils n'ont jamais éprouvé le besoin de domestiquer des chiens. Comme d'autres peuples primitifs, regardez par exemple en Mésopotamie, le chien était utilisé pour la chasse. Oui, donc les émules de Nimrod dans la chasse. Rien, là même pas, il ne sert à rien. Le chien est là, il vit avec eux comme d'autres parasites se joignent à des ibis avec les buffles et ainsi de suite. Ils vivent en paix. Alors le feu est allumé au centre du village, Donc c'est du bois qui est frotté, technique primitive, pas de briquet, pas d'allumettes, bien sûr. Le corps du singe rôti sur des pierres chauffées à blanc. Donc le singe est attaché à un poids, donc dépecé, un bout de poids, et il le rôtit petit à petit. Une fois cuit, rôti, il y a la division des parts. On commence par les vieux et les enfants, les petits-enfants bas âge. Puis les femmes, quand les femmes, les vieux et les enfants sont servis,
les chasseurs
mangent seulement. Ils mangent qu'à la fin. Ce qui est contraire, bizarre, oui, à d'autres sociétés. Alors, la viande, ils ne mangent pas que de la viande. Et c'est là, justement, je pense, une observation qu'ils ont dû faire avec la nature. Pendant qu'ils mangent de la viande, ils mangent certaines racines en même temps et certaines plantes, certaines feuilles. Ils vivent surtout des baies sauvages. Ils vivent ainsi en parfaite symbiose avec la nature environnante, avec la forêt. C'est ainsi, donc, si vous voulez, que le biroor vit sainement.
Oui.
Il n'a pas les maux qu'ont les autres. Lui, il a il s'est auto-régularisé. Il a la même nutrition, donc la viande de singe, des baies, des racines, et puis c'est tout. Ça ne change pas. Et il boit cette son eau.
Pas tellement de stress.
Rien du tout. Alors, il vit donc dans cette forêt qui le protège et le nourrit. Il ne la quitte que pour aller procéder au troc avec les autres ethnies. Fiers et audacieux, les biroors sont très fiers, comme beaucoup de chasseurs. Ils sont condamnés à un isolement. Ils ne veulent pas. Ils n'ont jamais voulu changer de vie. Ils n'ont jamais voulu adopter une autre forme de vie. Celle-ci leur convient et ils l'acceptent. Et leur isolement se fait de plus en plus grand, justement en vertu de leur évolution. C'est un isolement conséquent donc d'une culture en spirale, étant donné qu'elle est exclusivement centrée sur elle-même. Depuis des millénaires, elle n'a pas bouché. Donc, canalisée en une direction unique et constante, ont abouti à une forme de spécialisation qui est de plus en plus parfaite et rigoureuse. C'est-à-dire, quand ils vont chasser, ils chassent toujours de la même manière. Il n'y a pas une différence, si vous voulez, au millimètre près, à la seconde, il n'y a pas une différence dans les gestes. On va chercher les baies, les mêmes baies, on va prendre les mêmes racines, les mêmes gestes sont là depuis des millénaires figés. Il ne peut pas, de ce fait, accepter ou aller vers une tendance nouvelle, vers d'autres hommes.
Alors l'homme adulte ne travaille que pour sa nourriture, enfin si on peut appeler cela travail.
Pour sa survie. Ça ne sait pas travailler. Exactement, vous dites travailler parce qu'ils rentrent de la même façon. Oui. Ils partent tôt le matin, ils rentrent le soir, comme les ouvriers d'une usine. Mais ils ne chassent que pour survivre.
Et pas de contact avec l'extérieur, ni même pas beaucoup de contact entre eux. Enfin, c'est.
Sinon, disons qu'il y a une forme d'harmonie dans leurs échanges. Dans leurs échanges, qui sont une gestuelle très développée. Quelques mots, très peu de mots. Alors. Si vous voulez, cette spécialisation, qui est irréversible, leur enlève toute possibilité à s'adapter à un mode de vie nouveau, fût-il à quelques dieux de la jungle. Donc où ils vivent, c'est juste là. Ils peuvent sortir, l'un d'entre eux, s'il lui prenait l'envie d'aller vers la civilisation, il ne faudrait pas beaucoup pour aller vers elle. Ce n'est pas toute une expédition, comme dans certaines régions. C'est juste là. La civilisation est environnante, elle est immédiate. Ils n'en veulent pas. Ils s'isolent volontairement.
Et ils sont nombreux ?
Très peu nombreux. Très peu nombreux. Très peu nombreux à l'époque. On parlait de je pense qu'il y en avait en tout 2000.
2000 ?
Oui, c'est tout.
Ah, mais c'est très peu.
Oh, oui, c'est très très peu. Très peu. Ce sont, si vous voulez, les quelques rares, êtres qui subsistent de cette époque. Alors, ils ne peuvent évoluer que dans la forêt. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Ceux qui, parmi eux, à un moment donné, il y a eu des tentatives, on en a pris quelques-uns, qui s'étaient résignés donc à la civilisation et au mode de vie, qui sont allés donc en marche, qui ont vécu dans des villages, qui sont sédentarisés. Et notamment, il y a un village qui est le village de Neter Atik, où vivent donc ces biroors qui ont été interdits. Eh bien, ils ont été, d'une certaine manière, clochardisés. Ces gens qui n'ont jamais pu et ne savent pas faire autre chose. D'ailleurs, dans leur forme, la forme de la main, vous savez, beaucoup d'anthropologues, des gens qui ont fait de l'anthropologie médicale, comme je vous l'avais expliqué au début, les différences, vous disent que la chasse affine les membres, les doigts. Et les mains d'un chasseur ne sont pas les mains d'un laboureur, de quelqu'un qui travaille la terre. Eh bien, ces gens, avec leurs mains, ils ont des mains fragiles, ils n'ont rien pu faire d'autre.
Oui.
Alors, ce sont clochards, disait le vivant ayant, avec des tas de maladies, ils ont contacté des maladies avec d'autres, au contact des autres peuples.
Oui, puis ils vivaient dans la forêt, enfin, sainement, disons,
oui.
Quand même.
Eh bien, ils se sont débilisés, complètement débiles. Ils essaient de subsister à vendre des cordes qu'ils tressent inlassablement. Comme ça, on dirait dans ce village, un village, comme si vous alliez dans un immense asile, vous avez des gens qui font une espèce d'ergothérapie à tresser toujours les mêmes cordes. Et c'est pathétique. C'est pathétique.
Et ceux-là vivent en couple ou alors
ils vivent... Oui, ils vivent comme ça en famille, mais c'est triste. Il faut les voir dans quel état de désolation ils sont. Dégradation morale, surtout une dégradation morale, parce que enlevé à leur milieu, le milieu symbiotique, le milieu dans lequel ils vivaient harmonieusement, ils étaient protégés, dans lequel ils pouvaient évoluer. Alors beaucoup, leurs formes se sont avachies, ils ont pris de l'eau, c'était de véritables clochards, de véritables clochards. Eh bien, les pirogues ne volent pas, ils continuent à vivre, et ils maintiennent ce fossé culturel qu'il y a entre leur culture, entre leur mode de vie, entre leur façon d'être et la civilisation, une espèce de fossé culturel de plus de 30 000 ans. De plus de 30 000 ans qu'ils ne veulent pas combler, qui est très difficile à combler, ça ne les intéresse pas. Et ils ne pourront pas. Vous vous rendez compte, 30 000 ans du jour au lendemain à changer, ce n'est pas possible. Il faut plusieurs générations pour changer tout ça. Eh bien, ils veulent vivre en seigneur de la forêt. Voilà, parfaitement heureux, agiles, mobiles dans l'espace, mais immobiles dans le temps. Ils sont les reflets vivants, donc du passé de notre humanité, qui est miraculeusement maintenue, je vous dis, vu l'agression constante de la société, de la civilisation. Alors, maintenue d'une certaine manière à l'écart de notre folie, enfin de la folie de la civilisation, de la folie technique et industrielle et spirituelle de toute cette vie. L'origine des Birors est particulièrement, est pratiquement inconnue. On ne sait pas d'où ils viennent. Et c'est une espèce d'énigme qu'ils soient là, qu'ils aient été maintenus comme ça. Une légende, une de leurs légendes, raconte que les sept fils du soleil, vous voyez, les sept fils, c'est très important, le chiffre 7 est symbolique, on a parlé du septième ciel, des voyages mystiques, donc du prophète et tout. Effectivement, ce sont les sept galaxies, ce sont les sept cieux, et chacun des cieux est représenté par une entité quelconque, une divinité. Les sept fils du soleil, étaient descendus, on dit que les sept fils du soleil étaient descendus sur Terre. Quatre d'entre eux étaient partis vers l'Est, tandis que les trois autres se sont arrêtés dans la région de Rampart, donc une de leurs régions, devant affronter les chefs du pays, puisqu'ils sont arrivés. Les trois frères se mirent en route, mais l'un d'entre eux, se prit les cheveux dans les branches de la forêt. Et jugeant l'incident de mauvais augure, il s'arrêta.
Oui. Il était retenu.
Il a été retenu. Alors ses frères poursuivirent leur route, et après avoir défait les chefs ennemis, ils revinrent dans la jungle et trouvèrent leur frère en train d'écorcer un arbre. Ils l'appelèrent Biror, qui veut dire l'homme, qui signifie l'homme qui fend l'arbre, ou alors l'homme des bois.
Alors c'est de là que
j'ai leur nom, enfin c'est la légende.
Oui.
Alors, il s'est fâché. Celui-ci s'est fâché et il laissa aller sa fierté, affirma qu'il préférait rester Biror, homme des bois, plutôt que d'accompagner ses frères discourtois. Et c'est comme ça, donc, que se serait formé lui, fils du soleil, ayant créé cette peuplade d'hommes de bois, les Birors, qui ont vécu. Alors, les autres sont devenus Maharaja, ils sont allés donc, c'est le symbole, ils sont allés vers la civilisation, lui est resté comme ça. Les Birors, eux, se souviennent donc ainsi de leur père créateur qui est fils du soleil, qui est le soleil. Le père créateur qui est le soleil, il le prie chaque jour, à l'aube, le matin, donc au lever. Il prie chaque jour, accroupi.
Il prie à l'est.
Oui, à l'est, oui. Le soleil, dès qu'il va. Ils sont accroupis, les mains jointes, comme si vous
dans
voulez... Oui, comme chaque prière. Les mains jointes vers le soleil, tendues donc vers l'est, et les paupières closes. La lune, comme dans d'autres tribus, à l'encontre des autres tribus, la lune n'est pas divinisée. Ce n'est qu'un esprit. Un esprit, l'esprit de la nuit. Elle est bénéfique par sa lumière, la nuit, mais elle est maléfique en tant que fille des ténèbres, étant donné que...
C'est la nuit qu'elle se montre.
Alors, ces forces sont débiles. De ce fait, elles sont débiles. Le Naya, qui est le chef spirituel, le chef du village aussi, le chef du groupe, donc, est considéré comme fils du soleil. Alors, et il a été, si vous voulez, fécondé par le soleil. C'est un peu l'Immaculée Conception, la notion d'Immaculée Conception. Il a été fécondé donc par le soleil dans le ventre de sa mère. C'est les rayons solaires qui sont allés féconder le Naya.
C'est qui?
Ben, c'est une femme quelconque de la tribu.
Quelconque.
Oui, c'est une Immaculée Conception. Elle a été choisie par le soleil pour féconder. Et ainsi...
On ne vénère pas cette femme.
Non, pas du tout. Non, c'est lui, c'est le Naya, c'est le fils du soleil.
Ouais.
Et ainsi, tous ses enfants subissent, malgré tout, c'est symbolique, subissent la même fécondation. Et ils ont la même aura. Donc, ils sont fils du soleil. Étant donné que lui est déjà fils du soleil. C'est en quelque sorte comme si, bon, je vais dire une aberration, comme si le Christ avait eu des enfants. Donc, on aurait considéré qu'ils aient été aussi des Christs. Alors, bon, et il est seul. Seul le Naya peut intercéder auprès du Dieu soleil. Seul, il peut recevoir de lui donc des indications et transmettre aux hommes. Seul, il peut transmettre la prière des hommes. Ce qui fait que lorsqu'une prière est collective, seul le Naya prie. Les autres ne font que s'accroupir et joindre les mains. Il prie, c'est la prière en commun. Ça vous rappelle un peu la prière ici, la prière du vendredi. Il y a un imam qui conduit la prière. Le Naya, lui, conduit la prière. C'est en quelque sorte l'imam. Alors, mais si vous vivez dans une cabane en retrait, mais rien ne le distingue des autres hommes. Il n'y a pas de signe distinctif ni rien. Il vit comme les autres. Bon, il ne fait que conduire la prière ou alors appliquer les décisions qui sont collégiales et collectives, donc la décision du groupe. Il n'impose pas de son autorité, il n'a pas d'autorité en définitive. Voilà. Alors le Biror a une notion d'âme qu'il appelle Umbal, son âme, l'âme intérieure, qui est aussi la désignation de l'ombre, ce qui est caché. Oui. Le Biror, dans son unique prière à Singh Bonga, donc Singh le soleil, Bonga l'esprit, donc l'esprit de Dieu, Singh Bonga, lui demande d'éclairer le sentier qui suivra, que suivra son ombre, c'est-à-dire son âme, lorsque le moment juste sera venu. Le moment juste, c'est-à-dire la mort. C'est-à-dire que, au moment juste, à la mort, qui est méritoire et non une fatalité, la mort est quelque chose qui doit se mériter. On ne meurt pas par accident. Quand quelqu'un meurt, il est glorifié.
Alors, il se mérite dans le sens où la mort, on meurt d'une bonne façon.
Oui, on meurt toujours d'une bonne façon. Que ce soit un accident ou une maladie, on meurt toujours d'une bonne façon chez les Birors. Alors,
l'important est de mourir.
Oui, l'important est de mourir. Mais le suicide n'existe pas, déjà. Umbul, donc au moment de la mort, l'âme, rejoint le monde des esprits pour devenir l'égal des esprits. Et les esprits qui terrorisaient le vivant, elle devient régale, elle n'est plus terrorisée.
Non, mais elle terrorisera à son tour.
On pense, non, elle n'y terrorise pas, mais elle est l'égale des autres esprits maléfiques qui ne peuvent plus lui faire peur.
Elle
n'est plus terrorisée.
C'est l'homme. Déjà quelque chose.
C'est ça. Alors, elle a, si vous voulez, la mort à ce moment-là est à la fois une libération de cet antisèbre, mais aussi comme une sublimation, puisqu'elle va grandir. Donc, elle va grandir l'individu, son âme. C'est une sublimation, elle va le faire atteindre un état supérieur. En même temps que l'ombre, subsistent deux autres essences immatérielles, mâle et femelle, donc unies au-delà de la mort plutôt corporelle, dans l'attente bien sûr d'une nouvelle réincarnation. Voilà. Ces deux entités constituent une sorte de flux vital, privé de caractère. C'est une simple chose comme ça, donc une espèce d'ectoplasme, de caractère, et n'a pas de caractère individuel, rien, mais inextinguible, et destiné à se transmettre de corps à corps. L'homme est comme le feu, disent-ils, qui prend, qui grandit et meurt, pour renaître soudain ailleurs. Alors, toujours le même feu, mais jamais la même flamme. Voilà, symbolique. C'est un concept que les bouddhistes ont adopté, un concept bouddhiste aussi. Toujours le même feu, mais jamais la même flamme. Donc, c'est le Naya, donc je vous dis, qui prie pour tous qui sont réunis autour de lui. Il prie justement pour l'âme, pour le repos des âmes, pour que ces âmes soient éclairées par Singh Bonga, Dieu. Alors, il a le devoir de maintenir la sagesse ancestrale et de la transmettre à l'aîné de ses fils, au fils qu'il aura choisi. Lui qui sera donc fils du soleil aussi.
Et lui, il meurt de la même façon que les autres.
Il meurt de la même façon que les autres, il ira ailleurs. La notion d'enfer, la notion de péché, le mal n'existe pas. Il existe. Mais la notion d'enfer, l'enfer, c'est la vie. L'enfer est terrestre. L'enfer n'est pas dans la mort. L'enfer est dans la vie. Alors, la mort, c'est pour ça qu'elle est libératrice.
Mais peut-être qu'un bienfait.
Elle peut être qu'un bienfait. Bon. Et, si vous voulez, le Nayat transmet donc ses pouvoirs au cours d'une cérémonie. Une cérémonie d'initiation, il y en a tout plein. Et tout est marqué, donc, si vous voulez, par une fête ou par des dons, par une espèce des rites d'exorcisme pour chasser les esprits environnants. Même une naissance, lorsqu'un enfant naît, on le met dans un coin, on crée une enceinte sacrée autour de lui, donc une espèce de cercle, on le met autour de branchage et plus loin, on met le feu. Mais l'idéal, lorsqu'un enfant naît à la lumière du soleil, il est béni. Mais lorsqu'il naît la nuit, ce qui arrive dans beaucoup de cas, on prie pour lui, pour qu'il soit éclairé toute sa vie, pour que son umbal ait toute la lumière possible, étant donné qu'il est arrivé au monde sans lumière.
Oui, il a moins chance
exactement.
Que d'autres.
Voilà. Alors, la vie, pour eux, est, si vous voulez, d'une certaine manière, la course du temps. La course du temps aux étapes bien définies par Singh Bunga, Dieu, et à l'issue invariable. C'est une... Mais, si vous voulez, c'est assez... C'est monotone. Enfin, ça nous paraît unique. Monotone, sans variation, toujours la même chose.
On a cette impression.
On a cette impression. Mais pour eux, c'est une forme d'évolution poétique et parfaite, sans trouble aucun. C'est, si vous voulez, un monde construit patiemment durant des millénaires et dans tous les éléments. Le moindre objet ne peut être abandonné sans une déchirure psychique violente. C'est pour ça qu'il faut les maintenir, il faut se battre pour qu'ils continuent à vivre de cette façon-là.
Kadriaga, merci et bonsoir.
Bonsoir Nadia.
Bonsoir mes auditeurs et merci de nous avoir prêté attention également.